Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, maire adjointe de Sartrouville, coordinatrice de la cellule Riposte et des comités de soutien de Valérie Pécresse, candidate aux législatives dans les Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Alexandra Dublanche. Que vous inspire la situation en Ukraine, cette guerre au cœur de l'Europe?
Écoutez, la guerre est de retour au cœur du continent européen. Ça fait presque 25 ans que nous n'avions pas connu cette situation. Donc, évidemment, la situation est très grave. Et Vladimir Poutine a violé des règles les plus fondamentales du droit international en envahissant ce pays, l'Ukraine, un pays souverain. Et donc, dans la situation actuelle, il nous faut faire preuve tout d'abord de solidarité avec le peuple ukrainien. C'est ce qu'a demandé dès le 24 février Valérie Pécresse, pour protéger les populations civiles et faire face à la crise humanitaire qui se profile. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le temps de la naïveté européenne, il est terminé et que la France doit être vraiment en première ligne pour relever plusieurs défis qui nous attendent. Celui de la paix, évidemment. Valérie Pécresse, là aussi, l'avait proposé en janvier. Il va falloir définir une nouvelle architecture pour la sécurité autour d'une conférence sur la sécurité européenne qui réunisse l'Union européenne, la Russie et tous les autres pays européens. Il y a un enjeu aussi sur la sécurité de l'Union européenne. Les Européens doivent se doter d'une capacité autonome de défense en restant solidaires de l'OTAN. Et après, il y a deux enjeux qui vont avoir un impact important sur les Français. C'est l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire agricole. Et donc, aujourd'hui, sur ces quatre défis, la France qui préside le Conseil de l'Union européenne en ce moment, doit être à l'offensive et travailler de manière collective.
Valérie Pécresse a accusé ce week-end Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon d'avoir choisi Vladimir Poutine alors qu'elle a choisi, elle, l'Ukraine et la démocratie. Cette guerre est pour vous aussi un révélateur des différences entre les principaux candidats. Valérie Pécresse a déclaré qu'ils étaient disqualifiés en raison de ces prises de position passées sur la Russie.
Écoutez, il y a eu des propos très graves, effectivement, qui ont été tenus ces dernières semaines, et par Éric Zemmour, et par Jean-Luc Mélenchon, et par Marine Le Pen. On a eu un Éric Zemmour qui nous a expliqué qu'il fallait arrêter de faire de Poutine l'agresseur et que c'était Poutine l'agressé, que ses revendications étaient tout à fait légitimes et qu'il ne serait pas choqué par une invasion du Donbass en Ukraine par la Russie. On a Marine Le Pen qui, vous le savez, en plus, est dépendante d'un prêt à des banques russes, qui parle de grandeur de la France, mais qui est finalement la seule politique française soumise à des intérêts étrangers. Et effectivement, Valérie Pécresse a raison de dire que quand on a une fascination telle pour des ennemis de l'Europe, on ne peut pas prétendre à représenter la France et les Français. Et donc, ces candidats à l'élection présidentielle qui ont défendu la position de la Russie, qui se sont alignés sur ces positions, qui sont aussi financés dans le cas de Marine Le Pen par des intérêts russes, sont disqualifiés.
Alors évidemment, l'esprit des Français est aujourd'hui tourné vers l'Ukraine. Malgré tout, il faut continuer la campagne électorale, Alexandra Dublanche. Il faut aborder les questions qui vont concerner les Français pendant les 5 prochaines années.
Je pense que ce rendez-vous démocratique reste essentiel et que les Français font face à énormément d'enjeux en termes de sécurité, en termes de pouvoir d'achat, en termes de déclassement de l'école, et qu'ils ont envie de réponses face à ces enjeux. Alors bien sûr, le contexte international est inquiétant et que nous avons tous les yeux rivés vers l'Ukraine, mais il me semble indispensable que la campagne puisse avoir lieu et continue à se tenir pour voir ce que les différents candidats proposent face à ces enjeux majeurs auxquels fait face notre pays.
Alors, dans quelques jours, Emmanuel Macron devrait annoncer officiellement qu'il est candidat pour un deuxième mandat. Pour vous, quel est le bilan du président sortant?
Je pense que le bilan d'Emmanuel Macron, malgré la communication qui est faite par lui-même, par ses ministres, par ses parlementaires, est loin d'être réjouissant. Tout d'abord, en matière d'autorité, on voit que la violence explose partout en France. Il y a des quartiers entiers qui sont abandonnés. Il y a des zones de non-France qui se multiplient. Et puis, c'est pas nous, les opposants, qui le disons, ce sont les chiffres. Il y a 800 Français qui subissent une agression chaque jour. Les coups et les blessures volontaires qui ont augmenté de plus de 30% en 5 ans. Et donc, voilà, on voit que la situation est assez inquiétante. Idem, jamais l'immigration n'a été aussi massive. On a plus de 1,3 million de titres de séjour qui ont été délivrés. C'est environ un tiers de plus que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et depuis 2019, les éloignements ont été divisés par deux. Donc malgré ce qu'explique, j'essaye d'expliquer Gérald Darmanin, on n'est pas du tout beaucoup plus ferme qu'avant, bien au contraire. Par ailleurs, on voit que s'il y a eu une volonté au départ de réformer, en tout cas, elle n'a jamais abouti. On l'a vu sur la réforme des retraites, et je parle évidemment avant le Covid. Le Covid n'explique pas tout, attention. Donc une réforme comme la réforme des retraites, elle doit être faite dès le début d'un quinquennat, et cela n'a pas été fait, malgré un déficit capital de 13 milliards d'euros. On a peur aussi de s'attaquer à la réforme de l'État. Emmanuel Macron s'est engagé à une réduction du nombre de fonctionnaires, et ce qui se passe, c'est que en 3 ans pré-Covid, il a augmenté les fonctionnaires autant que François Hollande sur tout un quinquennat. Et même sur le plan économique, bien sûr, moi j'aimerais me réjouir des chiffres du chômage, de la croissance, mais attention, vigilance, puisque la croissance à 7% déjà, elle est dopée à la dépense publique, et si vous regardez les prévisions de l'Union européenne, il nous place 21e sur 27 en 2022 et 25e sur 27 en 2023. Donc, on sort bien plus affaibli de la crise que nos voisins. Et puis, je pourrais continuer sur l'emploi aussi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autosatisfaction assez mal placée, puisque on est 21e sur 27 en termes de taux de chômage. Enfin, on a un taux de chômage qui est le double de celui de l'Allemagne. On ne peut pas s'en réjouir. Et tout cela, dopé à la dépense publique, je précise à chaque fois, parce qu'on nous dit oui, mais de quoi qu'il en coûte était nécessaire, bien sûr, mais pré-Covid, et des dépenses massives, pré-Covid, de dépenses publiques, parce qu'on est incapable de réformer l'État. Donc ce bilan, je pourrais continuer sur l'école, je pourrais continuer sur la fracturation de la société, mais je ne veux pas être trop longue, mais non, ce bilan n'est pas à la hauteur, bien au contraire.
Alexandra Dublanche, durant la crise sanitaire, les jeunes ont beaucoup souffert. Emmanuel Macron a répondu par une mesure intitulée « Un jeune, une solution ». Quelle mesure prendra Valérie Pécresse pour la jeunesse ?
Alors, il y a une différence assez majeure que nous avons avec Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron, il a une vision de la jeunesse, de la placer dans l'assistanat. Je reprends son revenu d'engagement, par exemple. Donc, ce revenu d'engagement, c'est 500 euros qui tombent tous les mois dans la poche du jeune en échange d'une vingtaine d'heures, je crois, de bénévolat, si ce n'est moins. Nous, au contraire, notre valeur, c'est le travail avec Valérie Pécresse. Il faut aider le jeune à s'insérer par le travail dans la société. Et donc, nous, on proposerait, plutôt que ce RSA jeune, finalement, un revenu jeune actif, donc qui incite le jeune à se former dans les métiers qu'il recrute pour être sûr de l'insérer dans l'emploi. Par ailleurs, il y a d'autres mesures. On veut aider les jeunes dans leur passage à l'âge adulte. Ça passe aussi, par exemple, par l'accession à la propriété en élargissant et en généralisant le prêt à taux zéro, aussi en abaissant l'âge du permis de conduire à 16 ans. Il y a d'autres mesures également pour faire vivre cette génération numérique tout en la protégeant. Par exemple, Valérie Pécresse s'engage à créer 1 million de talents numériques d'ici 2030 en repérant ces talents dès la seconde et en créant une école nationale du numérique dont les étudiants seraient rémunérés et ensuite devraient travailler 10 ans dans la fonction publique comme ça existe déjà pour certaines grandes écoles. Il faut aussi faire émerger, accompagner des jeunes talents dans le domaine de la culture, en mettant en place un enseignement artistique culturel tout au long de la scolarité, en pérennisant le passeport sur le quinquennat. Enfin, il y a énormément de choses. Et une mesure peut-être aussi, je finirai peut-être par ça, encore une fois, je ne veux pas être trop longue, c'est la banque des jeunes. Tout jeune dans notre pays n'a évidemment pas les mêmes chances en fonction de sa famille, des possibilités que lui offre son milieu. Et donc cette banque des jeunes permettrait d'assurer le financement de ses études et aussi de ses projets professionnels ou entrepreneuriaux. Il y aurait un remboursement qui serait différé de ce prêt une fois le jeune entré dans la vie active et qui serait conditionné à un niveau minimum de revenus. À partir du moment où le jeune atteint un minimum de revenus, il commence à rembourser. Bon, voilà en quelques mots, quelques mesures pour la jeunesse.
Alexandra Dublanche, Valérie Pécresse veut un sursaut national pour l'école. Selon elle, il faut oser mettre l'éducation au cœur de la campagne présidentielle. Comment expliquez-vous que l'école ne tienne plus ses promesses aujourd'hui et quelles réformes faudrait-il mettre en place au sein de l'éducation nationale ?
Alors, il est vrai que l'école fait face à plusieurs enjeux. Elle a cessé de jouer un rôle d'ascenseur social. Aujourd'hui, pour accéder à la classe moyenne, il faut 6 générations lorsqu'on est issu de la classe populaire. Et en Europe, seule la Hongrie fait pire que nous sur ce sujet d'ascenseur social. Il y a aussi un décrochage scolaire qui s'est fortement accentué avec une dégradation du niveau des élèves, l'autorité du professeur qui a été chassé de l'école républicaine. L'école est au cœur du sursaut que doit connaître notre nation. Il faut un sursaut national pour l'école, puisque l'école, c'est vraiment de là dont vous découlez soit toutes les problématiques auxquelles on fait face plus tard, soit au contraire toutes les opportunités. Donc, il faut mettre davantage l'accent. Donc, comment on fait pour créer ce que Valérie Pécresse appelle une nation éducative? Tout d'abord, il faut restaurer l'autorité à l'école. Il faut rebâtir une école du respect, qui est vraiment une condition sine qua non pour la transmission du savoir. Donc ça veut dire recruter des surveillants, des brigades mobiles de sécurité dans les académies, comme nous avons fait d'ailleurs en Ile-de-France dans les lycées. Ça veut dire aussi peut-être sanctionner financièrement les parents d'élèves perturbateurs. Ça veut dire encadrer pour accompagner les élèves qui sont définitivement exclus et ne pas les laisser tomber dans le décrochage scolaire, il faut les envoyer dans des structures spéciales de réinsertion scolaire qui seraient créées dans chaque département. Ensuite, il faut absolument que nous remettions le savoir au centre de l'école en donnant la priorité à la maîtrise des savoirs fondamentaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on remet des heures sur le français, sur les mathématiques, donc 2 heures français et 1 heure de mathématiques en plus par semaine à l'école primaire. Et les inégalités scolaires elles viennent aussi du fait que l'école n'est plus vraiment gratuite puisque certains ont les moyens de se payer des petits cours à côté de soutien scolaire et d'autres pas. Donc nous, on veut créer une réserve nationale éducative d'enseignants retraités qui serait là, qui pourrait cumuler emploi et retraite pour l'aide aux devoirs, le soutien scolaire, etc. Et dernière chose, on mettrait en place un examen avant la 6e pour vérifier les acquis du primaire et les élèves qui auraient échoué. Il ne redoublerait pas, parce que ça devient dans ce cas-là des éléments perturbateurs d'une classe, mais ils iraient dans des classes de consolidation dans lesquelles on mettrait l'accent vraiment sur le français et les mathématiques. J'ai à nouveau pas le temps, il faut aussi valoriser le métier d'enseignant, enfin voilà, je veux pas être trop longue, mais en tout cas c'est au cœur du projet de Valérie Pécresse, ce projet de nation éducative.
Alors Alexandra Dublanche, Valérie Pécresse veut revaloriser le travail, augmenter les salaires. Si j'ai bien compris, ce sont tous les salaires qu'elle veut augmenter, pas seulement le SMIC.
Exactement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le travail ne paie pas assez en France. On a un revenu moyen qui est inférieur d'environ 20% au revenu moyen en Allemagne. Et donc, il faut absolument que le salaire net et le salaire brut se rapprochent pour qu'il y ait un gain de pouvoir d'achat pour tous ceux qui travaillent. Donc, c'est vraiment une mesure phare du projet de Valérie Pécresse, c'est d'augmenter de 10% les salaires d'ici la fin du quinquennat. Donc, on commencerait par 3% dès cet été d'augmentation. Donc, ça représenterait, par exemple, pour un salarié au SMIC, c'est à peu près 500 € en plus par an dès la première année du quinquennat. Et ensuite, on rentre dans une concertation, parce que nous, on croit à l'intelligence collective et à ces discussions avec les entreprises, avec les syndicats, etc., pour mettre en place cette conférence salariale afin d'arriver progressivement à l'augmentation de 10%. Donc on voudrait arriver en 2023 à plus 5%, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans la balance pour les entreprises? On met également la libéralisation du temps de travail, on met la dénormalisation, c'est-à-dire enlever des normes, enlever de la bureaucratie qui représente un coût important pour les entreprises, afin d'arriver progressivement à cette augmentation de 10% pour les salariés. Et je précise, pardon, salaire net hors inflation.
Alors Alexandra Dublanc, j'aimerais qu'on fasse une mise au point sur l'emploi par Valérie Pécresse de l'expression « grand remplacement ». C'était lors de son discours au Zénith. Elle a réaffirmé ensuite son opposition aux thèses complotistes d'Éric Zemmour. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'elle court derrière l'extrême droite ?
Ce qui s'est passé, c'est que dans cette campagne, nos adversaires ont souvent comme méthode de soit attaquer notre candidate sur la forme, soit déformer ses propos. Et ses propos, lors du meeting du Zénith, ont été complètement déformés. Elle a redit ce qu'elle a toujours dit, c'est qu'elle ne se désignait ni au grand remplacement, ni au grand déclassement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Valérie Pécresse ne se résigne absolument pas aux théories d'Éric Zemmour et de l'extrême droite. Et cette position n'est absolument pas nouvelle. Et quand l'extrême droite nous explique que tout est fichu par rapport aux problématiques migratoires, nous, au contraire, nous estimons que nous avons des solutions concrètes. Et c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse a déjà une loi constitutionnelle qui est prête pour reprendre le contrôle de cette immigration incontrôlée, donc avec des quotas par pays, un principe zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins, la fin du regroupement familial automatique, la fin du droit du sol automatique. Et donc, Valérie Pécresse n'est absolument pas en train de fricoter, je dirais, avec l'extrême droite. C'est une chiracienne, elle a toujours mis une barrière extrêmement étanche entre la droite et l'extrême droite, et elle n'a pas changé là-dessus.
Dernière question, Alexandra Dublanche. Lors des élections européennes, l'abstention a été très importante. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous redoutez une participation moindre qu'en 2017 ou 2012? On rappelle aussi que les inscriptions sur les listes électorales seront closes ce vendredi 4 mars.
Et je vous remercie de le rappeler, c'est extrêmement important. Il ne reste plus que 5 jours pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est évidemment crucial d'aller s'inscrire sur les listes électorales puisque ça permet à l'électeur, et puis après d'aller voter, de choisir l'orientation, la politique qui va porter la France pour les 5 prochaines années. Face à tous les enjeux dont nous avons parlé, c'est important que chacun aille faire ce choix. C'est un choix vraiment essentiel qui va impacter directement la vie quotidienne de chaque Français. On a parlé d'identité, on a parlé de souveraineté, on a parlé d'insécurité, on a parlé d'école. Sur tous ces sujets, les 5 années, je dirais même les 10 années à venir vont être absolument cruciales pour notre pays. Donc moi j'invite évidemment chaque citoyen à aller voter, c'est extrêmement important.
Merci Alexandra Dublanche. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, maire adjointe de Sartrouville, coordinatrice de la cellule Riposte et des comités de soutien de Valérie Pécresse et candidate aux législatives dans les Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.